Hélène Milano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour présenter votre film documentaire Château Rouge, qui est présenté à Pessac dans le cadre du festival L'Étoile Filante. Quel est votre sentiment par rapport à ce festival, à la ville de Pessac? Et est-ce que vous êtes déjà venu aux Toiles Filantes?
Non, alors c'est la première fois que je viens au festival et à Pessac. Moi, je trouve ça formidable d'organiser ce festival, ce que j'en perçois, ce que j'en comprends. D'abord parce que c'est sûr que l'aventure que vivent les jeunes enfants et les jeunes gens feront que ils auront un rapport forcément personnel au cinéma dans leur vie. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, je suis ravie de pouvoir être là et participer quoi à ce festival, à ces rencontres.
Alors, vous présentez, on l'a déjà dit, Château Rouge, qui est un film documentaire. Alors, ce n'est pas votre premier film documentaire du tout, puisque vous aviez sorti en 2012 Les Roses Noires et Les Charbons Ardents en 2019. Est-ce qu'on peut imaginer que Château Rouge, avec Château Rouge, ça forme une sorte de trilogie du documentaire?
Absolument, mais quand j'ai fini Les Charbons Ardents, je me disais, j'ai fait un diptyque et Château Rouge, donc il vient quelques années après. Je me disais, je ne pensais pas le raccrocher de cette façon, mais vraiment en cours de montage, je me suis dit, c'est évident que c'est une trilogie. Et qu'il y a dans le film Château Rouge et des questions que je portais des films précédents et aussi quelque chose qui a à voir avec une esthétique qui continue à se chercher, à s'épanouir ou à s'affirmer. C'est sûr qu'ils forment tous les trois une trilogie.
On peut peut-être rappeler rapidement Les Charbons Ardents, vous intéressez aux jeunes hommes des quartiers et sur le passage à l'âge adulte. Les Roses Noires, c'est un petit peu le même principe, mais avec les filles cette fois-ci. Et là, dans Château Rouge, vous vous intéressez plus au monde de l'enseignement, au collège, où vous avez rencontré, vous avez posé vos caméras dans un collège à Paris, au quartier de la Goutte d'Or, le collège Georges Clémenceau. Comment on peut présenter Château Rouge en quelques mots?
Du coup, oui, effectivement, si je remonte en amont, Les Roses Noires, c'est quand même un film où je décide à ce moment-là que je veux consacrer un film que à des jeunes filles de quartiers populaires, dans plusieurs quartiers en France. Et je m'inspirais aussi de la forme de la tragédie grecque avec la formation d'un chœur, un chœur de jeunes filles. Et j'ai poursuivi cette choralité avec Les Charbons Ardents. Et là, j'ai été plus loin, effectivement, dans comment, finalement, l'adolescence se vit au sein des établissements, puisque j'étais en lycée professionnel et que j'étais heureuse de rendre visibles des jeunes gens qui sont de toute façon très souvent caricaturés, stéréotypés, et de leur donner un espace cinématographique différent. Et puis Château Rouge, certes, c'est un film qui met en lumière le travail, l'engagement quotidien d'une équipe éducative qui est très belle et très, très accompagnante, très engagée pour lutter contre les déterminismes de toutes sortes. Mais malgré tout, au fond, ça demeure un film, et c'est ça qui le raccroche aussi au film précédent, sur l'adolescence, avec des adolescents qui s'inscrivent aussi dans ce projet cinématographique afin de donner à voir et à entendre aussi des ressentis, des perceptions qui ne sont pas visibles ou audibles.
Comment vous les avez choisis, vos personnages principaux de ce documentaire Château Rouge?
Alors en fait, moi j'essaye de faire qu'ils se puissent faire, mais je ne fais pas de casting en fait. C'est-à-dire que ça demande du temps. Mais justement, je trouvais un peu étrange d'arriver dans un endroit où il y a des personnes qui travaillent, où il y a des jeunes qui vivent des moments extrêmement importants de leur vie et qui parfois ont été déjà un peu blessés dans leur parcours scolaire. Et je ne me voyais pas arriver en disant « toi oui, toi non, toi oui, toi non ». Et sur quels critères? Enfin, c'est un peu étrange. Donc, je me suis dit que j'allais proposer, puisque le projet était quand même tourné vers les troisièmes, aux quatre troisièmes, un rendez-vous hebdomadaire qui, pour fonder comme une petite troupe, qui serait notre rendez-vous du mardi et qui serait donc sur quasiment une année. Et donc, dans ces rendez-vous du mardi, se sont inscrits sur la base du volontariat certains jeunes gens, et par exemple quelqu'un comme Bilal, donc qui est un personnage, un protagoniste important, mais ils deviennent des héros à un moment donné, c'est pour ça que j'emploie ce mot, eh bien il s'est inscrit et il a été là tout le temps, il s'est inscrit tout de suite, et comme ça, un certain nombre d'entre eux ont constitué vraiment une forme de troupe. Et finalement, le film ressemble à cette aventure-là.
Alors, vous intéressez à ce moment charnière de la troisième, puisqu'on parle pour la première fois d'orientation. Il y a quand même pas mal de collégiens qui sont mis un peu devant le fait accompli par rapport aux résultats qu'ils ont. On les destine directement à des filières qu'ils n'ont pas forcément choisies. C'est un peu compliqué pour eux à vivre. Ils ne savent pas du tout. C'est trop tôt, dit l'un d'entre eux à un moment donné. On n'est qu'en troisième. Il faut déjà qu'on prévoie ce qu'on va faire plus tard. Quand vous parlez de ça, vous montrez à la fois donc ces collégiens qui sont face à ces questions-là, mais vous les montrez aussi accompagnés de pas mal d'adultes qui sont là pour ça, pour les orienter, pour discuter avec eux, pour les écouter. Vous, votre volonté, c'était de juste montrer comment ça se passe, ou vous avez un avis par rapport à ce système-là d'orientation ?
Un avis, je ne crois pas que je le dirais comme ça, mais en fait, ce qui est apparu, c'est que comme justement le film, je le traversais, je vivais cette aventure cinématographique plutôt avec les troisièmes, j'ai senti monter petit à petit cette charge d'angoisse, cette pression. Et la violence systémique, elle est apparue, même s'il y a une distance entre connaître un fait et voir comment il se vit. Et là, cette violence systémique, j'ai vraiment pris la mesure aussi de comment elle est vécue, comme une sanction, comme une injonction, une forme de violence qui est assez forte et qui s'exerce aussi sur les adultes parce que, a priori, ce n'est pas leur métier. Leur métier étant d'enseigner et de pouvoir donner les outils pour que les êtres se construisent dans l'émancipation, dans l'esprit critique, etc. Et ça, c'est le relais de chaque professeur d'une année sur l'autre et puis de tous les adultes qui les accompagnent. Mais tout le monde est pris dans une forme de violence systémique et il s'agit donc du côté des adultes de leur donner les outils pour être résilients et construire des chemins malgré le fait que le système demande des normes. Et c'est ça qui est violent aussi, c'est qu'on voit bien qu'au moment où c'est l'adolescence dans son plein épanouissement, bien à ce moment-là, alors que c'est une révolution psychique, physique, émotionnelle, on découvre son corps, son visage même, les relations amoureuses, etc. Et à ce moment-là, des grandes révolutions, on leur demande de se déterminer, ce qui est quand même un peu un non-sens. Et donc, c'est tout ça qu'il fallait mettre en lumière et puis se dire que bien sûr, ils vont construire des chemins, bien sûr, ils vont construire un chemin qui est singulier à chacun. Mais bon, c'est quand même une épreuve et que de ne pas regarder ce moment comme ce qu'il est, c'est-à-dire un moment quand même qui est assez violent, ça ferme le fait qu'ensuite il puisse en parler. Et effectivement, en ayant fait toutes les projections scolaires, ce que j'ai pu sentir, c'est combien ça ouvre aussi le fait que parfois il se trimballe le sentiment « ça a été ma faute, j'ai déçu mes parents, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela ». Mais quand on rééquilibre aussi les choses en disant « il y a quand même des choses de façon systémique qui peuvent poser question », ça soulage aussi. Ça fait que on se sent pas tout seul non plus face à quelque chose qu'on a vécu parfois en le subissant.
Mais est-ce que finalement, ce système dont vous parlez, il finit pas par juste étiqueter les gens, les mettre dans des cases, et après c'est hyper compliqué d'en sortir de ces cases-là?
Il y a une chose qu'ils ne savent pas souvent, c'est que c'est vrai, et ça j'en parle avec les lycéens, c'est que quand on a choisi une voie, a priori les passerelles existent aujourd'hui là où elles n'existaient pas avant. Donc ça, c'est quand même, moi c'est pour le coup, c'est sur les charbons ardents que j'avais rencontré un jeune homme, c'est parce qu'il y avait le film qui se déroulait dans l'établissement qu'il avait dit « mais en fait, moi en carrosserie, je ne suis pas heureux, ce n'est pas du tout ma place ». Et parce qu'on en avait parlé, il a pris les devants auprès d'autres adultes pour trouver une autre voie dans laquelle il s'est épanoui. Donc en fait, on se rend compte, il y a beaucoup de métiers qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de situations où ils se disent « suis-je légitime à me projeter dans tel ou tel endroit de la société ?» Et puis de se dire « est-ce que je peux changer ? Est-ce que ça va être vécu comme un échec de nouveau ?» Tout ça, il faut sortir de cette logique du silence en fait.
Alors votre documentaire, il alterne plusieurs phases. On les voit par exemple face caméra répondre à vos questions, ces collégiens. Par contre, on ne voit pas le corps enseignant dans ce même processus. On voit aussi leur vie de collégien de tous les jours. Vous filmez aussi les entretiens entre les personnels du collège et les collégiens. Pourquoi vous avez fait le choix de n'interviewer que les collégiens, par exemple ?
Alors en tout cas, par rapport aux adultes, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de montrer le territoire de rencontre. d'accompagnement. Et donc, le comment effectivement se joue la relation avec les adultes et comment ils peuvent engager quelque chose qui les aide à construire des outils. Pour autant, il y a forcément une vie invisible aux adultes, c'est le propre des adolescents. Du coup, j'avais pensé à un dispositif donc, qui architecture le film autour du cinéma direct, qui est ce temps qui avance, hein, qui roule, on ne peut pas le retenir, ce temps-là, jusqu'à l'échéance du départ du collège. J'avais donc pensé à un deuxième espace filmique qui était qu'est-ce que je pourrais effectivement, éventuellement attraper de ces éclosions adolescentes en ayant comme ça des propositions d'improvisation ou bien de, autour de textes, etc. Mais vraiment, l'idée n'était pas de répéter pour, c'était de pouvoir deux ou trois fois venir avec la caméra et essayer d'attraper ces éclosions parce qu'ils étaient souvent très, très partants pour effectivement ces travaux-là. Mais il y a des choses qui sont arrivées évidemment qu'une fois, parce que c'est le moment des éclosions. Et puis, c'est vraiment en avançant dans le tournage que cette troisième matière filmique très importante, qui est ce qu'eux, ils ont à dire sur ce qu'ils vivent, qui a commencé à me manquer très fort. Et c'était bien leurs paroles qui me manquaient. Et puis, vous savez, j'ai toujours en tête, et ça depuis le premier film, la phrase de Bourdieu, les classes populaires ont deux choix, se taire ou être parlées. Et favoriser un espace de parole qui a quelque chose à voir avec reprendre le pouvoir aussi sur ce qu'on nomme, sur ce qu'on décide de communiquer à l'autre, etc. C'est pas rien. Et que cet espace-là, politiquement, il est important.
Il y a pas mal aussi de respiration. Vous montrez, par exemple, une séquence qui est marquante, celle de la danse, par exemple. Il y a aussi tous ces portraits que vous faites où il n'y a pas de parole, hein, où vous filmez juste les visages, etc. Parfois même des très très gros plans. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont vu les collégiens après ? Ils vous ont parlé après de ces gros plans que vous faites ?
Alors, pas spécifiquement de ça, mais quand ils l'ont vu, ils ont été super émus de deux choses. D'abord d'être pris au sérieux. Et puis de se trouver beau, parce que c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir des collaborateurs. Jérôme Olivier, c'est un superbe chef opérateur. Et la beauté aussi de ses visages et le travail sur le portrait. C'était important pour moi parce que je parlais tout à l'heure du fait que souvent ces jeunes gens sont stéréotypés, caricaturés, sur lesquels on plaque un peu des jugements et de remettre du mystère. En fait, quand on passe du temps sur un visage, qu'on sent plus qu'on analyse toute la variété des émotions et qu'on mesure aussi la profondeur de tout ce qu'on ne pourra jamais savoir de l'autre, c'est remettre aussi du mystère et du fait qu'on ne peut pas tout comprendre de l'autre. Et c'est bien comme ça. Il me semblait que c'était une dimension importante pour le film. En dehors du fait que le temps s'arrête, que le spectateur est tenu pendant un temps, non plus dans des événements, mais dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sensation de l'autre, en fait, de regarder l'autre, d'écouter l'autre.
Vous mettez en scène vos personnages, même si ce n'est pas des comédiens. Justement, quelle est la part de mise en scène dans votre travail ?
Moi, je pense qu'elle est partout, c'est-à-dire même sur le cinéma direct, évidemment que tourner une séquence, c'est... À quel endroit on se met, qu'est-ce qu'on cherche à filmer, comment on est dans l'écoute de celui qui reçoit ou de celui. Enfin, il y a énormément de paramètres de mise en scène, en fait. L'idée, c'était quand même d'avoir une caméra plutôt qui accueille, une caméra qui est dans l'écoute, plutôt qu'une caméra qui court après ou qui chahuterait les uns et les autres. En fait, la mise en scène, elle est partout. Elle est juste de nature différente selon les matières filmiques. Et effectivement, y a par exemple de l'éclairage sur les moments de portrait. C'est vraiment du travail photographique. Et après, il faut harmoniser tout ça pour qu'on ait vraiment la sensation d'un mouvement et pas de plusieurs choses qui seraient additionnées. Mais l'ensemble doit faire mouvement.
Est-ce que vous diriez que faire un documentaire, c'est filmer le réel alors ?
De toute façon, c'est une mise en scène du réel. Dans tous les cas, ça n'existe pas de dire... c'est pour ça que souvent, moi ça me fait rire un petit peu des fois quand on veut souligner l'importance ou la justesse d'un film en disant tiré d'une histoire vraie. Ouais. Bon, voilà. Mais forcément, mon travail, c'est une représentation du réel. Pour autant, ça reste du cinéma.
Au début du film, il y a quelques passages que vous filmez pas avec la même caméra que le reste du film, où c'est presque, on dirait presque du téléphone portable. C'est peut-être du téléphone portable. Donc ça tranche un peu visuellement avec le reste, mais en même temps, ce qui est dit est très très important, je pense. C'est pour ça que vous avez fait ce choix-là de le mettre au montage, ce passage-là. C'est quelque chose qui s'est offert à vous comme ça au dernier moment, que vous n'avez pas prévu, peut-être que vous avez dû filmer comme ça, non ?
Ah bah autant il y avait des fois où j'ai su que je pouvais pas avoir mon chef-op avec moi et que c'est moi qui étais à la caméra, autant là j'avais rien.
Ouais.
J'avais rien, aucun matériel, ni son, ni... Et donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire rien. Et sauf que c'était un moment qu'on a jugé important au montage et tous les techniciens ensuite en post-production, on a fait en sorte que ça puisse... quand même trouver une forme d'harmonisation avec le reste des images.
Comment vous travaillez, vous, avec votre chef opérateur ? Donc, il y a aussi un monteur ou une monteuse.
Voilà. Alors,
vous êtes en équipe réduite quand vous n'êtes pas...
Oui, j'ai beaucoup de chance parce que, effectivement, donc, j'ai une superbe chef son, un super aussi chef opérateur image. On essaye justement d'être le plus harmonieux tous les trois ensemble dans l'écoute des personnes que l'on filme. C'est pas rien d'arriver dans un endroit et d'avoir l'ambition de filmer des gens qui sont en train de travailler, des personnes qui sont en train de vivre des choses importantes pour elles. Et comment on établit à la fois une relation très respectueuse et comment aussi on construit la confiance avec le rapport même à l'outil caméra, perche, tout ça, ça se travaille. Et là-dessus, c'est pas une caméra qui est cachée, la perche, elle est tout le temps là, Marianne travaille beaucoup à la perche, et ça, c'est bien, en fait. C'est vraiment des choses qui permettent de faire que tout le monde se sent en sécurité avec le fait qu'il y ait un tournage. Parce que les choses, elles sont là, elles sont dites, elles sont visibles. Et après, en post-production, pareil, j'ai une super équipe, une super monteuse, avec Cécile Dubois et Thomas Tourtelier. Après, j'ai eu à l'équipe son Samuel Mittelmann, qui est un super monteur son. Après, j'ai enchaîné avec Laure Artaud, avec Elia Coca. Vraiment, j'ai eu une très, très belle équipe sur ce film.
Mais justement, quand vous filmez ces séquences où, par exemple, les personnels du collège sont au travail, sont en face des élèves, etc., est-ce que le fait qu'il y ait la caméra, ça change un peu quand même les choses ou pas ?
Forcément, il y a quelque chose qui se joue. Quelqu'un qui est filmé, il peut y avoir plein de choses, même des toutes petites sensations. Hein. Est-ce que ça fait miroir ? Est-ce que ça fait révélateur ? Est-ce qu'on l'évite ? Est-ce qu'on esquive ? Forcément, il se passe des choses. Mais pour autant, ils étaient au travail, donc c'était OK. Personne ne m'a jamais interdit de filmer. La confiance, elle était vraiment là, ce qui fait que on a pu filmer. Et puis après, ils sont vraiment dans ce qu'ils font au quotidien, quoi.
Ce film, il est sorti le 22 janvier.
Oui.
Donc, vous avez eu l'occasion de le montrer à pas mal de gens. Quels sont les retours ? Qu'est-ce qu'on vous dit après la projection du film ?
Ce qui est très beau, c'est quand même que le public avec le film, il est assez large. Pour les collégiens et les lycéens, ce qui se passe sur l'écran réouvre pour eux des choses qu'ils n'ont pas formulées ou bien qu'ils n'ont pas réussi à mettre des mots. Ils se sentent moins seuls. Enfin, il y a quelque chose vraiment de fort qui se passe là. Après, avec les gens plus âgés, les adultes, ça renvoie forcément à l'universel de l'adolescence. Et puis, il y a aussi un public d'enseignants, de personnes qui sont engagées et qui reconnaissent aussi la mise en lumière et les questionnements. Mais qu'est-ce qu'on veut, en fait, comme dans notre société ? Quelle place on veut pour l'éducation ? Enfin, c'est fondamental quand même. Et toutes ces questions-là, elles sont assez vastes. D'ailleurs, le film est construit pour ça, pour que les choses soient assez vastes. Et l'accueil du public est vraiment, vraiment beau, quoi.
Et vous, personnellement, quelle collégienne vous étiez ?
Moi, j'étais en troisième notamment, j'étais une élève assez agitée. Et du coup, quand on est un peu agité en troisième, on peut passer à côté de justement les normes, des notes, des résultats, etc. Donc moi, je me suis retrouvée à la fin, ce qu'on me dise, ça ne va pas aller. Donc on m'a proposé une orientation en BEP coiffure. Mais moi, je n'avais jamais eu en tête la coiffure. Je n'avais aucun goût pour la coiffure. Si ça avait été le cas, pourquoi pas ? Mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, du coup, mes parents ont accepté, ont demandé que je redouble. Et après, ça a roulé. Donc, il y a une expérience aussi de ce moment-là. En fait, je l'avais oublié. Mais c'est à la fin du montage, je ne sais plus à l'occasion de quelle projection, que je m'en suis rappelée, en fait.
Mais aujourd'hui, on ne redouble plus. Où il y a moins de redoublements, peut-être.
Beaucoup moins, ouais. Mais ça veut dire de l'argent aussi, pour redoubler. dans le film, quand on regarde le parcours d'Abdoulaye, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être journaliste? Peut-être qu'effectivement, il lui fallait peut-être un an de plus pour avoir conscience de l'attendu des normes autour des notes sur le général. Peut-être que c'est un peu, effectivement, le système des normes qu'il faudrait un petit peu revoir. En tout cas, on se dit, waouh, c'est quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est vrai que est-ce que tout le monde doit être au rendez-vous au même moment selon comment on grandit et la maturité qui se forge à ce moment-là, bah, ça pose question quand même.
Est-ce que la société ne se prive pas de véritables talents qui vont être mal orientés en troisième?
Mais c'est sûr. Vous savez, quand Bourdieu il dit qu'il a mis en lumière le fait que notre système scolaire reproduit les inégalités et les classes, l'orientation, elle arrive souvent beaucoup plus pour les classes populaires que pour les classes privilégiées. Donc, il y a un problème quand même. On a quand même un peu, semble-t-il, l'ambition d'une équité des chances. Donc, il y a encore des questions qu'on doit se poser pour ça.
Vous faites des documentaires pour le cinéma et la télévision? Vous faites les deux?
Oui, j'en ai fait.
Voilà. Est-ce que c'est différent quand on fait un documentaire pour le cinéma et un documentaire pour la télévision?
Moi, j'imagine que ça dépend des expériences sur chaque film. Après, il y a vraiment le fait de devoir rentrer dans des cases de durée. J'ai toujours trouvé ça super douloureux parce que le temps d'un film, c'est le temps d'un film. Et ça, moi, je l'ai toujours vécu de façon très douloureuse. Après, travailler pour le cinéma, se dire qu'on plonge complètement dans l'espace-temps qui est celui du grand écran, de la temporalité juste du film, et puis de ne pas avoir aussi de formatage. Ça, c'est quand même très joyeux. Et c'est pour ça qu'il faut protéger le plus qu'on peut le cinéma documentaire, qui est quand même fragilisé en ce moment.
Pour finir, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Il y a pas mal de choses que j'ai en tête, mais je fais un peu. Je vais prendre le temps aussi de laisser reposer un petit peu mes idées, parce que vous savez, quand on s'engage dans un film documentaire, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement sur un long temps, et qu'il faut vraiment que la nécessité de ce qu'on a à visiter, à raconter, à filmer soit très ancrée dans une nécessité, quoi. Donc je vais prendre un petit peu le temps. Pas très longtemps, mais un petit peu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.